RFI, 8h30, à Paris, 7h30, en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Vincent Dublanche. Des exactions contre les civils dans le centre du Mali.
L'armée et les paramilitaires russes sont pointés du doigt par plusieurs sources locales. Ça s'est passé en milieu de semaine dans la zone de Douentza. On entendra dans ce journal la peur des habitants de Goma, capitale du Nord Kivu, en RDC, qui est toujours en proie au combat dans sa périphérie à une vingtaine de kilomètres. Au Nigeria, le groupe armé Lakurawa, déclaré terroriste par la justice. Et puis l'expropriation possible sans compensation en Afrique du Sud pour construire une école ou des logements. C'est une loi qui fait polémique. Le journal Esport dans 10 minutes. Les premiers mots du crack égyptien Omar Marmouche qui vient de signer à Manchester City et qui pourrait jouer ce soir face à Chelsea. Au Mali, l'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner se sont donc à nouveau livrés à une série d'exécutions sommaires. Ce sont les informations en tout cas recueillies par Radio France Internationale. Une dizaine de personnes ont été égorgées, décapitées, tuées par balles mardi et mercredi dernier dans la région de Douentza. Dans le centre du Mali, d'importantes destructions sont également rapportées sur place. Les précisions de David Baché.
La patrouille Fama Wagner est partie mardi de Koro en direction de Boulikessi. Selon les informations recoupées auprès de plusieurs ressortissants de la zone et de représentants communautaires, trois dogons de la commune de Dinangourou sont enlevés, puis leur corps retrouvé décapité. Le lendemain, mercredi, c'est dans le village de Bouldé, commune de Mondoro, que Wagner et les soldats maliens exécutent cinq peuls et en blessent quatre autres par balle. Les sources rapportent des intrusions dans les familles vers 8h du matin, des personnes égorgées chez elles, une quarantaine de greniers à mille incendiés et des motos détruites. Le même jour, dans le village de Nyangasadiou, deux dogons et trois bellas sont également exécutés. Parmi les victimes, certains sont présentés comme des vendeurs d'essence. Étaient-ils soupçonnés de vendre aux djihadistes? Les commerçants ont-ils le choix dans cette partie du territoire malien en partie dominée par la Katiba Massina du Jnim, liée à Al-Qaïda? En tout état de cause, les sources rapportent des exécutions sommaires, sans combat ni arrestation. Une source sécuritaire malienne commente, c'est la méthode Wagner. L'armée malienne n'a pas communiqué sur ses opérations et sollicitée par RFI n'a pas donné suite.
Et vous pouvez lire ou relire tous ces détails et l'enquête de David Baché sur RFI.fr. Il est 9h33, quasiment à Goma. Les combats intenses se sont poursuivis hier toute la journée autour de la capitale du Nord Kivu, sur deux fronts à l'ouest, autour du verrou stratégique de Sake et puis au nord, près de la ville de Kibumba, la localité en tout cas de Kibumba. Les deux lignes de contact sont situées entre 15 et 20 km de la ville de Goma elle-même, aux prises toujours face à face, le groupe armé du M23 encadré sur le terrain par l'armée rwandaise et puis l'armée congolaise qui s'appuie elle sur des milices mais aussi sur les forces de la SADC d'Afrique australe et sur les casques bleus de la MONUSCO. D'ailleurs, ces derniers participent au combat dans le cadre de leur mission de protection des civils. Des habitantes, des habitants de Goma, ces centaines de milliers de déplacés internes aussi qui y vivent depuis des mois, tous ont peur, témoignage.
Les activités sont ralenties à cause de la guerre. Certains n'ont pas ouvert leurs boutiques parce qu'ils ont eu peur, mais d'autres magasins fonctionnent normalement. Mais c'est vrai qu'il y a des déplacements de population.
Nous avons peur, mais nous ne pouvons rien faire, alors nous attendons la volonté de Dieu. Nous avons peur parce que nous entendons des détonations d'armes lourdes. Il y a beaucoup de questions sur la situation. Est-ce qu'ils vont venir jusqu'ici ou pas ?
Comme tout le monde, je dis qu'il y a de la peur. Ces détonations d'armes lourdes, on les ressent dans nos corps. Alors nous prions pour que Dieu nous aide. Si les FARDC réussissent à les déloger, à chasser les rebelles afin qu'ils ne viennent pas en ville, ce serait une bonne nouvelle.
La peur est devenue comme une habitude chez nous. Nous en connaissons ce sentiment. Mais que nous ayons peur de la guerre ou pas, c'est la même chose. Nous restons ici. Car dans les autres zones où nous pourrions nous réfugier, il y a des combats. Pour l'instant, on reste ici. On n'a pas d'autre endroit où aller.
Témoignage recueilli par notre correspondant à Goma, Héritier Baraka. Sur demande de la République démocratique du Congo, appuyée par la France en tant que membre permanent, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir lundi pour évoquer cette crise. L'ONU qui demande une nouvelle fois au M23 de se conformer au cessez-le-feu de juillet dernier et d'arrêter son offensive, de se retirer des zones conquises. Le président angolais, João Lourenço, a pris la parole hier. lui qui dirige une médiation entre la RDC et le Rwanda, qui d'ailleurs va prendre la présidence de l'Union africaine dans quelques semaines. Il veut encore croire au dialogue, dit-il. Une autre offre de médiation est venue ces jours-ci d'Ankara. C'est Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui l'a proposé. Il a vu son homologue rwandais, Paul Kagame, jeudi soir. Enfin, sachez que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France appellent leurs ressortissants à quitter Goma. Au Nigeria, c'est un petit groupe armé assez nébuleux, mais qui est actif depuis une petite décennie dans le nord du pays. Le groupe est baptisé la Kurawa, recrue en langue Hausa. Il agit à cheval sur la frontière avec le Niger et fait même désormais de grosses incursions plus à l'intérieur du Nigeria. Il fait de plus en plus parler de lui au point que désormais les autorités nigérianes le considèrent comme un mouvement terroriste. C'est en tout cas la décision jeudi soir de la Cour de justice d'Abuja, Lisa Fabian.
La justice nigériane a officiellement déclaré que les activités de la Kurawa sont illégales n'importe où au Nigeria, mais particulièrement dans le nord-ouest et le centre-nord du pays. C'est le ministre de la Justice qui a déposé cette demande, alors que les autorités s'inquiètent depuis début novembre de la résurgence du groupe la Kurawa, pourtant présent depuis au moins 6 ans dans la zone frontalière entre le Niger et le Nigeria. D'abord chargé de protéger les communautés locales des attaques répétées des gangs armés, les membres de la Kurawa sont devenus plus agressifs dernièrement. Les chercheurs estiment qu'ils ont des liens avec les djihadistes et qu'ils entendent établir un califat dans la région. L'influence de la Kurawa s'étend désormais plus au sud de l'état de Sokoto, mais également dans la région voisine de Kebbi et jusque dans l'état de Zamfara, des zones désertées par l'état nigérian, mais aussi par les autres groupes armés. La justice nigériane a souligné que la Kurawa correspond aux critères établis par la loi sur la prévention du terrorisme. Cette définition permet des sanctions plus sévères pour les membres présumés du groupe, mais aussi pour leurs informateurs et toute personne leur fournissant une aide logistique.
Et vous retrouvez une longue analyse sur ce groupe armé, signée Lisa Fabian, notre spécialiste de la zone sur l'application RFI. Au Sénégal, un mot de cette décision de l'Assemblée nationale hier lève l'immunité parlementaire du député d'opposition Farban Gom, un proche de l'ex-président Macky Sall, pour des irrégularités financières alléguées sur lesquelles la justice sénégalaise enquête. On y revient en détail dans le prochain journal Afrique dans une heure sur Radio France Internationale. Un homme est mort hier en centre-ville de Tunis après s'être immolé par le feu. Selon des témoins sur place qui ont relayé l'information à des médias tunisiens, l'homme aurait tenté de s'attaquer à des policiers stationnés à proximité d'une synagogue. Il se serait d'abord avancé vers la synagogue, versé ensuite de l'essence sur lui et s'immolant par le feu. Il se rapprochait alors des policiers, l'un d'eux a ouvert le feu car l'un de ses collègues a été en partie brûlé par l'assaillant. Une balle perdue a touché un passant à proximité. Il est dans un état stable, dit le ministère tunisien de l'Intérieur. La Tunisie, où l'avocate Sonia Dahmani reste en prison. On se souvient de son arrestation en direct sur France 24 l'année dernière. La justice hier a confirmé en appel sa condamnation. Elle l'a légèrement réduite sa peine. 1 an et demi au lieu de 2. Esdras Ndikoumana.
Ses proches et avocats espéraient un miracle. Ils ont reçu une douche froide. Et c'est à la radio tunisienne qu'ils ont appris que Sonia Dahmani restait en prison. L'avocate médiatique connue pour son franc-parler avait été arrêtée en mai dernier suite à un trait d'humour sur un plateau TV. Alors qu'un intervenant s'inquiétait de la possibilité que les migrants subsahariens en transit vers l'Europe finissent par s'installer en Tunisie, Sonia Dahmani répond alors avec sarcasme « Oui, c'est ça, dans son pays magnifique ». Depuis, l'avocate a été poursuivie dans 4 autres affaires, tout en lien avec sa critique des mauvais traitements réservés aux migrants, du racisme anti-noir ou de la situation politique dans son pays. Depuis la promulgation par le président Kais Saied du décret 54, qui punit de jusqu'à 5 ans d'emprisonnement la diffusion de supposées fausses informations, plusieurs journalistes, avocats, opposants ou encore militants de la société civile ont été arrêtés en Tunisie. La mobilisation pour leur libération connaît un regain d'intérêt depuis quelques jours, aussi bien dans la société civile qu'au sein même de l'Assemblée tunisienne.
Il est 7h39 à Khartoum, le Soudan, où l'armée affirme avoir brisé le siège de son quartier général dans la capitale. Un QG de l'armée qui avait été encerclé très vite dès le début de la guerre avec les paramilitaires en avril 2023. Paramilitaires des forces de soutien rapide qui contestent cette avancée de l'armée à Khartoum. Il est difficile d'obtenir des informations indépendantes. Si toutefois cela se confirmait, l'armée soudanaise serait en mesure de faire se rejoindre ses forces entre le QG et les villes sœurs où elle a progressivement repris pied ces derniers mois à Bari et à Omdurman. Un mot du Soudan du Sud, où les autorités lèvent finalement le blocus d'une partie des réseaux sociaux. Elles avaient annoncé mercredi un blocage de 30 jours sur Facebook, sur TikTok notamment. L'objectif étant d'empêcher l'engrenage des violences, les appels à la haine contre les Soudanais à Djouba et dans d'autres villes, la mesure de coupure de certains réseaux sociaux au Soudan du Sud était fortement contestée. Elle est donc levée. C'est un sujet de débat récurrent là aussi. En Afrique du Sud, comment corriger les inégalités issues de la période coloniale, puis du régime raciste de l'apartheid qui a pris fin il y a un peu plus de 30 ans. Le parti au pouvoir depuis, l'ANC, tente de montrer qu'il agit, alors qu'il est sous le feu des critiques pour ne pas avoir assez poussé la justice à réparer les crimes de l'apartheid. Le président Cyril Ramaphosa vient de signer une loi d'expropriation. Elle permet à l'État sud-africain, dans des cas très précis d'intérêt public, de récupérer des terres sans compensation, par exemple pour construire des écoles ou des logements aux loyers abordables. Explication sur place de Valentin Hugues.
Après 3 siècles de colonisation et plus de 40 ans d'un régime raciste d'apartheid, aujourd'hui la minorité blanche détient encore les 3/4 des terres du pays. Cette loi est alors présentée comme un moyen de corriger les inégalités du passé. Avec cette nouveauté, l'expropriation sans compensation qui cristallise toutes les tensions, la loi précise qu'elle aura lieu uniquement si aucun accord n'est trouvé entre le propriétaire et l'État et devrait concerner essentiellement des terrains inutilisés ou laissés à l'abandon. Reste que ce sujet est hautement politique. Sur cette question de redistribution des terres, l'ANC joue l'équilibre pour rallier les électeurs sans pour autant effrayer la sphère économique. Parce qu'ici, l'exemple du Zimbabwe est dans toutes les têtes. Ce pays voisin plongé dans une grave crise économique a récemment fait marche arrière en indemnisant les fermiers blancs après un large programme d'expropriation. La porte-parole de l'ANC précise donc que cette loi répond aux besoins de millions de Sud-Africains exclus de la propriété tout en veillant à ce que les droits des propriétaires soient respectés. Certains partis politiques ont déjà annoncé qu'ils contesteront l'application de cette loi. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Puisqu'il me reste quelques secondes, je vous signale ce sujet à retrouver sur RFI.fr et sur votre appli RFI. En Gambie, l'ancien dictateur Yahya Diame annonce vouloir revenir au pays. Notre analyse est donc à lire sur notre appli RFI. Il est 7h42 à Banjul. Julien Coquelroem, c'est à vous.
Merci Vincent Dublanche.